D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Je suis un objet. Je mesure, disons, 12 cm sur 18. Mon épaisseur est de 3 cm. Je pèse 500 grammes. Sous une couverture de carton, je suis en feuille, le plus souvent collée, plus rarement cousue. Mon nom est Livre. On me trouve d'abord dans des librairies de nouveautés, parmi bien d'autres de mes semblables, mais non pas de mes pareils, le contenu étant loin d'être le même pour tous, à un prix qui varie entre 15 et 20 euros. La chose frappante est que, si je suis vendu blanc, mes pages étant vierges, sous le nom de carnet, dans une papeterie, je coûte aussi entre 15 et 20 euros. Autrement dit, premièrement, l'encre ne coûte pas cher, c'est un fait. Deuxièmement, et deuxième fait, la valeur ajoutée de la pensée dans le système capitaliste est quasi nulle. Elle est donc mal payée, ce qui permet de ne pas augmenter le coût des ouvrages. Il est vrai que si on devait en tenir compte, il faudrait en toute logique établir une hiérarchie économique en fonction des talents. Le Patrick Besson vaudrait 20 fois moins que le Olivia Rosenthal, et par voie de conséquence, l'originalité, récompensée en valeur nominale, serait punie en inégalité de chances d'achat. L'écrivain est celui qui, de tout ce qu'on appelle joliment la chaîne du livre, on se demande qui est enchaîné, est le moins rémunéré. Moins que l'imprimeur, moins que l'éditeur, moins que le libraire, toute personne qui pourtant n'existerait pas sans lui. Enfin, parmi les libraires, le libraire d'occasion est rémunéré différemment. Il ne perçoit pas 35 ou 40% du prix du livre, mais 100%. 100%, il faut le dire tout de suite, d'un prix extrêmement minoré. Il devient aussi mal payé que l'écrivain, c'est donc mon frère, à nous les centimes. Les libraires d'occasion sont de deux sortes. Les marchands de livres rares et anciens, comme Henri Vigne, que j'ai reçu dans Secret Professionnel l'an dernier, et les libraires d'occasion à proprement parler, qui revendent des éditions courantes. Si les premiers s'occupent de livres dont la valeur est principalement établie par la rareté du tirage et la qualité du papier et de la reliure, la vente chez les seconds se fait en fonction de la qualité littéraire. Quel est le secret professionnel de la librairie d'occasion? Je reçois pour en parler Frédéric Biébert, propriétaire de la librairie de Cluny à Paris. Frédéric Biébert, dites-moi où elle se trouve, votre librairie.
Alors, ma librairie se trouve entre la Sorbonne et Gibert. Je n'ai pas été très courageux dans le choix de l'emplacement. Je me suis dit que si le livre devait toujours exister, ça serait entre ces deux monuments de Paris et de l'histoire du livre.
Avez-vous toujours exercé ce métier? Avez-vous toujours été libraire?
Non. J'ai eu le malheur d'être bon élève, avec une famille d'ingénieurs. Donc j'ai fait, sans réfléchir, parce que j'avais 16 ans, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai fait une école d'ingénieurs, j'ai travaillé à la Générale des Eaux.
Quelle voilà. Horreur!
J'ai un diplôme de statisticien économiste, là je vous fais rêver, signé par Dominique Strauss-Kahn. Voilà, qui doit être quelque part dans un placard chez moi. Voilà.
Donc vous n'avez eu aucune formation au métier de la librairie?
Non, aucune, comme je pense une grande majorité de mes confrères,
ah oui,
finalement. Alors je crois que ça donne finalement des libraires qui vivent vraiment leur passion.
Ça veut dire que vous y étiez un très grand lecteur?
J'ai été un très grand lecteur et le jour où je suis devenu libraire, j'ai presque totalement arrêté de lire. Voilà. Je laisse ça. Alors souvent on me demande, ça c'est le cauchemar du libraire, naturellement des clients qui rentrent, qui leur disent « Mais avez-vous lu ce livre? Qu'en pensez-vous ?» Bon, naturellement sur les 5000 livres à peu près que j'ai en stock dans la boutique, j'en ai lu 25 ou 50, ça doit être le bout du monde. Et maintenant, je leur réponds écoutez, non, j'ai juré de ne pas lire de livres. Voilà, c'est votre travail. Voilà, moi je suis là pour les transmettre.
Quand vous disiez votre passion, c'était donc une passion de commerçant ou une passion?
Au départ, c'était vraiment une découverte de la littérature, comme on peut la faire à 18 ans ou avant, hein, mais peut-être même à 15 ans, voilà, 20 ans, avec une passion vraiment forte, voilà, des amours tout à coup, des camarades, même de classe, en classe scientifique d'ailleurs, qui arrivaient avec un « il faut lire Flaubert, il faut lire Léo Mallet », voilà, ou même San Antonio, et puis on repassait à Maupassant. Voilà, une passion forte avec quelques amis et la découverte, un moment, de parce qu'on cherchait un titre épuisé qu'on ne trouvait pas. Moi, ça a été l'invention de Morel, de Bioy Casares, qui est un livre, on m'en avait parlé. J'ai dû le lire en poche, mais je voulais en trouver un exemplaire un petit peu plus agréable. Et on rentre dans des librairies où assez souvent on peut se faire aussi et conduire rapidement. Et puis à un moment, on trouve un endroit, un petit paradis, où on trouve ce livre pour à l'époque peut-être 20 francs, et on y prend goût, c'est un jeu, on cherche des livres.
Ça veut dire que vous-même, vous étiez client de librairies d'occasion?
Je pense que la plupart, justement, des gens qui changent de métier comme ça et qui deviennent libraires, sont des clients de livres d'occasion qui ont trouvé un endroit un peu magique, et qui se sont dit peut-être naïvement que cette deuxième carrière leur apportera tous les plaisirs,
C'est le cas?
Moi, c'est le cas, parce que en fait, je suis aussi un redoutable commerçant, en fait. Ça veut dire que j'aime les livres, je suis très curieux de tous les livres, et en même temps, je m'amuse beaucoup à acheter, à vendre, à acheter des camions de livres sans même ouvrir un carton. Ça, c'est encore plus amusant.
Et une part de jeu?
Une part totale de jeu. Une part totale de jeu. J'ai acheté un lot de livres. Il y a 10 cartons de déménagement. On m'a dit, écoute, on n'a pas le temps d'ouvrir les cartons. Donne-moi ça. J'ai dit, bien sûr.
Vous n'avez aucunement affaire, comme les librairies de nouveautés, à des représentants qui viennent vous exposer les livres à paraître. Donc, votre pari est totalement différent. C'est pas un pari sur l'inconnu, comme les libraires de nouveautés, mais un pari sur le connu.
C'est un pari sur le connu, mais si on voulait rester toujours sur le connu, sur les valeurs sûres, je pourrais remplir ma librairie de 4000 exemplaires du Petit Prince. Et je ne vendrais qu'un livre que je vendrais très bien à tous les touristes du monde. C'est un livre qu'on demande tellement que la plupart des bouquinistes sur lesquels les achètent neufs pour les vendre.
Ah non, ils les font vieillir? Ça serait très beau.
Les faire vieillir, non, ça, oui, ça pourrait se faire, oui. Tiens, c'est une bonne idée, merci.
Oui.
On va transmettre cette idée. Alors il y a comme ça des textes. Je parle vraiment de l'occasion et vous avez fait la différence entre les libraires de livres précieux et les livres d'occasion. Mais on pourrait marcher avec une cinquantaine de titres.
Dites-moi lesquels, en gros, à part le Petit Prince.
On pourrait... Le Deuxième Sexe. Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Toutes les étudiantes allemandes à Paris nous demandent un exemplaire du Deuxième Sexe.
Encore maintenant.
Oui, oui. On pourrait... Les Trois Mousquetaires. Alors, Cyrano de Bergerac en relié. Ça, c'est un cadeau classique. Et, naturellement, le grand best-seller, Les Fleurs du Mal. Que tout amoureux offre à sa compagne vers 18 ans ou 20 ans.
Alors, où vous fournissez-vous? Faites-vous, comme on dit, les successions? Allez-vous chez les gens qui se débarrassent des bibliothèques de leurs ancêtres? Comment ça se passe?
Pour tous les libraires, de toute façon, je pense que le marché du livre, de la vente, c'est 80-90% de successions. Alors, il y a les marchés opus, mais les marchés opus sont fournis par des brocanteurs, des débarrasseurs qui vident aussi des appartements. Après, la petite partie qui pourrait rester, ce sont des gens qui allègent leur bibliothèque suite à un déménagement, des collectionneurs qui passent à autre chose, des choses comme ça. Mais ce sont les successions, donc on est appelé, on est envoyé par d'autres libraires, assez souvent justement des libraires de livres précieux, qui prennent que 5-6 livres parmi les milliers de livres qui peuvent y avoir dans un appartement. Et nous, on arrive en nous demandant un service, souvent, de débarrasser tout.
Et vous allez aussi à Drouot le matin acheter ce qu'on appelle dans votre métier des manettes?
Alors, je suis allé il y a 20 ans quand j'ai commencé. Je suis allé tous les jours pendant un an à Drouot, sans beaucoup de succès. Peut-être mes finances à l'époque étaient un peu trop serrées. Je trouve que ça ressemblait trop à un travail de bureau, que je venais de quitter. Finalement, une librairie comme je l'ai, qui est assez bien placée, où pas mal de gens peuvent venir me chercher, me trouver, me permet d'avoir des approvisionnements très importants.
Est-ce que c'est un métier qui s'apparente en partie à celui d'antiquaire ou de brocanteur? Vous vous levez tôt, vous prenez une camionnette, vous soulevez des poids, est-ce que c'est comme ça?
C'est tout à fait ça, à tel point que je pense qu'il est plus important d'avoir un bon dos que des bons yeux. Et il paraît même que entre les deux guerres, le meilleur bouquiniste ne savait pas lire. Ça veut dire qu'il sentait bien les livres, mais il était analphabète.
Les clients des librairies d'occasion sont différents des librairies de nouveautés, il me semble. Et d'abord, ce sont probablement de plus grands lecteurs. Et ce qui me frappe chaque fois que je vais dans une librairie d'occasion, c'est que, alors que dans les librairies de nouveautés, il y a beaucoup de femmes et qu'on sait très bien que les acheteurs de livres nouveaux sont principalement des femmes, chez vous, dans vos librairies, on ne voit quasiment que des hommes. Est-ce que je me trompe ?
Vous ne vous trompez pas, mais c'est une question que je redoutais. Il y a une théorie là-dessus.
Dites-la, moi j'aime beaucoup
les théories. Il y a une théorie là-dessus, mais c'est une théorie que je n'endosse pas et que, voilà. C'est un vieux bouquiniste qui m'avait dit simplement que, oui, il y a très peu, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes. Il y a plutôt des hommes d'un certain âge d'ailleurs, plutôt, je pense qu'une moyenne d'âge à 60, 70 ans, allez, 60 ans disons, même si j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de jeunes. Et peut-être, allez, 10%, chez moi peut-être 20% de femmes. C'est encore plus réduit, je pense, dans la librairie de collection.
Bon, et là, sur les quais aussi, il me semble qu'il y a peu de femmes sur les quais.
En bouquiniste, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. En libraire ou en client?
Non, en client.
Alors, en client. Je pense que la collection, ça n'a pas l'air d'être... Je n'ai pas lu les grands livres sur ça. La collection, ça n'a pas l'air d'être un truc de femme.
Alors, voilà. Quelle était la théorie?
Alors, la théorie, c'est... moi, je vois bien... en fait, ma chère mère achète beaucoup de livres, lit beaucoup de livres, et refuse totalement de prendre des livres chez moi, parce qu'ils sont sales, parce qu'ils ont été touchés par d'autres personnes, voilà... Parce qu'elle veut des objets propres qui rentrent chez elle, voilà.
Alors, on parlait de l'offre et de la demande. Est-ce que vous constatez une évolution, justement, de la demande, puisque vous êtes très, très soumis à cette demande? Quels sont les hauts et les bas de la postérité? Est-ce que le Anatole France est à la baisse et le Sartre se maintient?
Ouh là là!
Dites-moi ça.
Oui, il y a des auteurs qui tombent dans l'oubli. Alors après... c'est une question de génération. Je crois qu'il n'y a pas vraiment à lutter contre l'effet du temps. Vous avez cité Anatole France. Oui, Anatole France. Les demandes sont un petit peu rares. Mais il y a des auteurs, Paul Bourget. On nous en demande pas très souvent. Souvent, on nous en demande. Le lendemain du jour où on a tout jeté dans une benne ou à peu près où on a confié ça à un autre brocanteur qui est parti avec, quoi, voilà. Et le lendemain, on nous en demande.
Et est-ce qu'en revanche, vous assistez de temps à autre à des résurgences ou à des flambées de notoriété?
Oui, alors souvent, c'est un feu de paille. Hein, ça veut dire que ça dure un petit peu de temps. Alors, on a eu quelques prix Nobel très prestigieux récemment. Alors tout à coup, tout le monde nous appelle pour savoir si on a des livres de Modiano, de Leclésio, alors des livres précieux naturellement, c'est-à-dire que tous les livres dédicacés sont partis dans l'après-midi du prix Nobel, livres-là étaient partis de chez tous les libraires, et puis l'effet se calme un peu, même si ces auteurs ne sont, eux, pas du tout oubliés. Ensuite, il y a des éditeurs très courageux qui ont relancé Henri Calais, Emmanuel Bove. Grâce à ça, ces auteurs ont eu une deuxième vie et qui se sont maintenus, voilà.
Nous allons maintenant entendre le libraire Pierre Berès au cours d'un entretien avec Pierre Descargues. L'entretien a été diffusé le 9 mai 1995.
C'est qu'en allant à Louis-le-Grand à pied depuis mon domicile qui est rue d'Assas, je passe tous les jours devant un bouquiniste et je regarde un bouquiniste qui est sur la gauche... presque au coin de la rue qui va vers Luxembourg, et je vois des étals de livres. Et un jour, j'entre en classe, et le copain qui est à côté de moi sur le banc sort un petit livre et me dit « Regarde ce que j'ai acheté chez... » Il nomme le bouquiniste devant lequel je passais. Il avait acheté pour 25 centimes ou 50 centimes, je ne sais pas, un petit livre du XVIIe siècle, en vélin. C'est un volume incomplet, un volume en latin sans intérêt. Et j'ai été bouleversé par l'idée que l'on put acquérir pour une somme qui était tout à fait dans mes moyens, encore que ce fût impécunieux, un objet qui était vraiment un élément de civilisation, qui était comme une pierre parfaitement conservée, avec un intérêt quand même littéraire, historique qui se dégageait de cela. Et ça a été certainement le fondement de tout mon commerce avec les livres, mon contact avec les livres. Alors à ce moment-là, je vous disais que j'étais un pécunieux, j'ai commencé un petit peu de bricolage de courtier, c'est-à-dire que c'est une époque où il y avait cette imbécile mode des premières éditions non coupées et des éditions originales qui faisait fureur, ce qui fait que quand un livre de, je ne sais pas moi, de Kessel ou de qui paraissait, il y avait des tirages en papier numéroté qui sortaient, je ne sais pas combien, 12 francs et qui, le lendemain, valaient 14 francs ou 18 francs, etc. Donc, on pouvait très bien gagner 2 francs ou 4 francs, etc. Et j'étais très content parce que comme à cette époque-là, un repas coûtait 5 francs et quand il fallait emmener une jeune fille à Montmartre où il y avait un merveilleux restaurant comme ça en bas de la butte où les repas coûtaient 5 francs et 8 francs, ben, ça posait souvent des problèmes au moment d'emmener la jeune fille, de savoir ce qu'on allait commander. Voilà mes débuts dans ce métier.
Frédéric Bieber, il y a parfois chez les libraires d'occasion des découvertes extraordinaires. Par exemple, le neveu de Rameau de Diderot. On ne le connaissait en France que par une traduction allemande de Goethe, jusqu'à ce que, en 1891 seulement, quelqu'un découvre le manuscrit parmi des livres d'occasion chez un libraire d'occasion. Ça vous est arrivé à vous des choses pareilles ?
Alors, à la fois, hélas oui, et tant mieux. J'ai appris une partie de mon métier chez un libraire qui était peut-être connu pour faire des grosses boulettes, ça veut dire des dessins de Picasso qu'il avait cru imprimer ou qu'il avait fait semblant de croire qu'ils étaient imprimés et qui partaient à 10 francs ou à 20 francs, voilà. Et moi, je viens de faire une boulette, là, la semaine dernière, ou à peu près, j'avais un livre de... c'est un livre de Maurice Nadeau, que je mettais à 8 euros, voilà, en vitrine pendant 2 mois sans l'ouvrir, et puis j'ai un client qui l'achète et qui l'ouvre devant moi une fois l'avoir bien acheté en me montrant ce que j'avais fait comme boulette. Donc il était dédicacé naturellement par Maurice Nadeau, ça encore, ça a une petite valeur, mais c'est quand même déjà bien, et aussi par André Breton et par Benjamin Perret. Voilà. Alors, bon, c'est une petite boulette qui fait passer le livre de 8 à 200-300 euros, voilà, peut-être que...
Mais là, comment qu'avez-vous fait alors ?
Ah ben là, il faut prendre une grande respiration et montrer le plus grand calme. Je lui ai dit, vous avez fait une bonne affaire, voilà.
Mais comment le livre était dédié à la fois par Breton, Nadeau et... C'était
un livre publié par Nadeau sur le surréalisme.
Ah, c'était son histoire du surréalisme.
Oui, voilà.
Ah, oui.
À la suite d'une rencontre, les trois ont dû se rencontrer ensemble. Voilà, un professeur de la Sorbonne et lui dédicacé. Voilà. Une grande respiration. Et par contre, en fait, en y réfléchissant, c'est une très très bonne publicité pour moi. C'est-à-dire que pour 200-300 euros, je suis connu comme étant quelqu'un qui pourrait faire des boulettes.
Chez qui on peut faire,
voilà,
des affaires.
Et ça, c'est merveilleux. C'est la meilleure des publicités.
Et est-ce que vous-même, en ouvrant des cartons, vous disiez dans la première partie de ce secret professionnel que vous achetiez parfois des cartons, oui, sans savoir ce qu'ils contiennent, vous avez découvert des trésors ?
Oui, oui.
Par exemple ?
Oui, oui. J'ai dans un grand lot, alors souvent on me demande de faire un prix assez rapidement, il y a des milliers de livres chez les gens, on n'ouvre pas tous les livres, on ne peut pas, on essaye de faire un prix souvent correct quand même pour avoir les livres, et puis on ramène tous ces cartons, on commence à les ouvrir, on commence à s'exciter un petit peu, il est 7h, il est 8h, on reste jusqu'à 2h du matin, on ferme la boutique, à ouvrir tous ces cartons dans un joyeux bazar. Et une fois, j'avais ouvert une petite revue et dedans, il y avait une lithographie de Miro. C'est une lithographie très connue de Miro, qu'il avait fait pour la guerre d'Espagne. Voilà, c'était en soutien à la guerre d'Espagne, elle était vendue et c'est dans une revue qui s'appelle « Les cahiers d'art ». D'avant-guerre, je ne vais pas dire l'année exacte, de 38 ou de 39. C'est une lithographie que je cherchais pour moi, mais je ne savais même pas qu'elle était dans ce livre. Et en ouvrant ce livre par hasard, je la vois apparaître. Voilà, donc c'est une belle joie. Voilà.
Alors, il y a aussi dans votre métier une partie du métier qui n'est pas très connue, c'est la fonction de courtage. On a beaucoup parlé récemment d'une première édition de L'écume des pages chez Gallimard qui aurait été cédée 1500 euros à un bouquiniste.
De L'écume des jours ?
De L'écume des jours, pardon. Excusez-moi, oui, L'écume
Attention,
des pages, c'est une librairie,
moi.
C'est un de vos confrères. De L'écume des jours qui a été cédée 1500 euros à un bouquiniste, lequel est allé le revendre à un libraire du Salon du Livre Rare au Grand Palais très récemment et qui, à son tour, l'a revendu de 1500 euros. Donc c'est 10 ans. C'est pas assez, vous trouvez ?
Bon, je sais
Car
pas.
Car en fait,
oui,
il
oui.
faut dire que Gallimard avait publié la première édition de L'écume des jours et ensuite a cédé les droits et que l'édition est devenue rare.
Oui, la première édition de L'écume des jours est assez rare. Alors, ensuite, c'est une édition, je crois, qui n'a pas de grand papier de bibliophilie, donc on cherche des exemplaires en service de presse. Ce sont les premiers exemplaires qu'on dit qui ont été publiés. Là, on rentre un petit peu dans le domaine des collectionneurs de timbres. Vous voyez, il faut que ça soit parfait. C'est des prix qui me paraissent, oui, raisonnables. Maintenant, il y a aussi des histoires de livres qui ont opus de vente, qui ont été, qui ont changé 5 fois de main dans la matinée, qui sont passés de 50 € à 100, à 5 000 et à 12 000.
Ah voilà.
Oui.
Quel livre vous rappelez?
Il y avait, j'espère que je vais pas me faire des grands ennemis, mais je pense que maintenant il y a une prescription. Il y a eu un exemplaire d'un livre de Germaine Krull, qui est une photographe des années 30, qui s'appelle Métal, qui avait changé de main, voilà, un certain nombre de fois. Les sommes sont peut-être, variables.
Et donc, il y a aussi du courtage dans votre métier. Est-ce que vous, par exemple, vous le faites parce que ça n'est, si vous arrivez sur un livre qui n'est pas votre spécialité, est-ce que vous allez le revendre à un confrère? Est-ce que...
Alors, moi, je revends beaucoup à des confrères, et vraiment très agréablement. Certains de mes confrères, par contre, considèrent que c'est un échec de vendre à un autre marchand, voilà, qui pourra gagner des sous, sur eux. Voilà. Moi, ça m'arrange parce que finalement, le travail avec des libraires de qualité est rapide, se fait dans des bonnes conditions, et surtout, il y a des renvois d'ascenseur, puisque de temps en temps, j'ai des adresses grâce à eux. S'ils savent que moi, je peux leur donner leur vendre à bon prix des bons livres. Voilà. Ils me contactent pour les bonnes adresses aussi.
Est-ce que la concurrence d'Internet vous a porté tort maintenant que tout le monde peut vendre les livres de sa vieille grand-tante sur eBay ou...
Alors, Internet a naturellement totalement changé la donne. Déjà pour les courtiers, par exemple, il n'y a plus beaucoup de courtiers. Et alors, il y a à la fois les grands sites de vente sur Internet, on peut les citer, il y a Amazon, il y a eBay, qui acceptent d'ailleurs que tout le monde puisse vendre les livres. Vous pouvez tout à coup revendre tous vos livres directement sur Amazon sans être un professionnel. Ça a naturellement changé le métier. Maintenant, je pense qu'il faut faire avec. C'est pas la profession de libraire qui va maintenant détruire ces grandes entreprises. Voilà. Internet a eu un autre effet un peu pervers, c'est que finalement, ça nous a permis de connaître, d'avoir une base de prix absolument universelle sur tous nos tarifs et normalement d'éviter maintenant les grandes erreurs de prix. Ça veut dire les boulettes qui permettaient à des clients de faire ce qu'on appelait des chopins.
Qu'est-ce que c'est un chopin?
Alors un chopin, ça vient de l'ancien billet de 500 francs français sur lequel il y avait un chopin. Donc ça voulait dire une très bonne affaire.
Ah.
Et moi j'ai commencé, j'étais courtier au début, puisque quand on commence, quand on arrête une profession, on en commence une nouvelle, on fait ça un peu timidement au départ. Et on faisait tous les libraires de Paris, de province, on prenait sa voiture, on allait partout, et on cherchait la bonne affaire. Voilà, qui était naturellement possible, parce que les gens ne se renseignaient pas beaucoup sur le prix des livres. Aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde peut prendre son carton de livre qu'il vient d'acheter, vérifier tous les prix. Ah tiens, il est à 800 € chez Intel, je vais le mettre 750, ou quelque chose comme ça, ou 400, ou 1000, voilà. Ça a uniformisé un petit peu les prix et je crois qu'on s'est un peu tiré une balle dans le pied parce que nos bons clients qui venaient dans toutes ces librairies avaient quand même un peu l'espoir de faire une bonne affaire, quoi. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est un peu plus rare. Voilà. Et le plaisir de la Chine, le plaisir de la librairie s'en est trouvé un petit peu réduit.
Vous-même, vous vendez des livres vous avez un site internet, vous vendez des livres sur internet?
Alors, je suis en train de faire machine arrière. Ça veut dire que déjà, je me suis installé libraire. J'ai commencé, alors d'abord courtier, ensuite j'ai vendu sur internet, uniquement sur internet. J'avais un studio dans le quartier latin. Je partais de mon matin avec ma voiture ou à pied ou en bicyclette pour faire tous les libraires de Paris, faire les marchés aux puces, les brocantes. Je ramenais mon carton et je mettais tout ça sur internet ou j'en vendais directement à des marchands. C'était vraiment du courtage. Je me suis aperçu que les appartements étaient pleins de livres et que personne ne trouvait de solution pour se débarrasser de ces livres.
Mmh.
Voilà. Et je me suis installé. J'ai fait le chemin inverse. Tout le monde allait sur Internet et je me suis dit, tiens, on va faire le chemin inverse. On va s'installer en librairie. Au début, je pensais faire 50% de mon chiffre sur Internet et 50% du chiffre en librairie. Je me suis aperçu que la librairie, finalement, il y avait beaucoup de clients qui avaient très bonne volonté pour acheter, voilà, des gens passionnés. Je suis bien placé. C'est peut-être le dernier endroit où il y aura encore des clients qui aiment le livre. Mais il y en avait beaucoup et peu à peu, j'ai réduit la voilure sur Internet pour plutôt privilégier une clientèle de passage, une clientèle fidèle. Il faut aussi leur proposer des livres un petit peu rares, à prix bien plus réduit que sur Internet.
Ah oui. Voilà.
Oui. Mais je pense que je suis gagnant parce qu'ils reviennent, ils achètent d'autres livres avec.
Y a-t-il des livres que, une fois que vous les sortez des cartons, vous gardez pour vous et que vous ne revendez jamais ? Si, autrement dit, si j'allais dans votre bibliothèque personnelle, pas dans votre librairie, quels seraient les livres qui me parleraient de vous ?
Alors, vous seriez très déçu si vous aviez envie de voir des trésors de bibliophilie. Finalement, c'est le grand danger de la profession aussi, c'est de garder pour soi tous les livres les plus précieux. Voilà. Et à la fin, on meurt et nos héritiers font une très belle vente de livres, dont peut-être d'ailleurs la moitié ont perdu toute leur valeur. J'ai décidé plutôt de vendre les livres. Voilà. C'est de temps en temps difficile, on a des regrets de temps en temps, mais la clientèle est quand même assez importante, il faut la soigner, il faut pas... Alors ça serait c'est le plus grand drame pour les clients, c'est on ouvre un carton devant les clients et on prend le premier livre et on dit « Ah non, celui-là, je le garde, c'est pour moi ». Là, on fâche une grande partie de notre clientèle.
Vous parliez de clientèle, Frédéric Biebet. Les rencontres avec des libraires d'occasion donnent parfois lieu à des livres. Et je pense au fameux livre de Helen Hanf qui s'appelle 84 Charing Cross, qui a été traduit il y a quelques années en France, qui était un livre très charmant, où une New-Yorkaise écrit une correspondance avec un libraire de Charing Cross, qui est une des rues des libraires d'occasion à Londres. Est-ce que vous avez comme ça des relations privilégiées avec quelques clients qui reviennent très souvent, que vous aimez bien revoir, ou alors est-ce que tout au contraire, il y a toujours un vieux raseur qui vient vous demander ?
Alors, on a tout. On a du vieux raseur, heureusement. Mais on a aussi, oui, on a. J'ai des clients qui sont devenus de véritables amis, dont certains que j'essaye de freiner sur leurs achats parce que j'ai vu leur bibliothèque. Voilà, certains 40 000 livres, 50 000 livres. Voilà, je sais qu'il y a aussi un client d'une autre librairie qui en aurait 120 000.
120 000 ?
Oui. C'est deux appartements pleins, toutes les pièces, plutôt que des cartons, je pense. Voilà. Déjà, 30-40 000 livres, c'est assez important. Moi, j'ai débarrassé un appartement qu'on contenait 20 000. C'était déjà un travail gigantesque.
Alors, pour finir, Frédéric Biebert, une chose frappante dans une librairie comme la vôtre est que, en général, on y entre sans savoir ce qu'on veut et qu'on en ressort avec beaucoup de livres qu'on ne cherchait pas, mais qui, eux, nous ont trouvés. Alors, est-ce que le secret professionnel des librairies d'occasion n'est pas qu'elles sont, au fond, les meilleures agences matrimoniales qui soient ?
C'est vrai que le client qu'on redoute, c'est celui qui cherche un livre. Voilà. Parce qu'il y a une règle, j'avais lu ça dans un livre anglais d'un auteur qui s'appelle Joseph Connelly, qui était un écrivain de romans peut-être légers, j'ai l'impression, pour en avoir lu un, et qui était aussi un bibliophile passionné, et qui avait dit, de toute façon, la règle principale de la librairie, c'est que le livre que vous cherchez vient d'être vendu 5 minutes avant, et à un prix vraiment, vraiment ridicule. Et donc je redoute les clients qui cherchent quelque chose. Souvent, ils savent d'ailleurs pertinemment qu'on ne l'a pas, mais c'est une façon de rentrer dans une librairie et avec une certaine assurance. Par contre, celui qui ne cherche rien, ben c'est un peu mon cœur de cible parce qu'il va le trouver, quoi, finalement.
C'était Secret professionnel le 253e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de la Maison Rouge. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral. Prise de son Pierrick Charles, recherche Ina Aude Vassan. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.